Radio Campus Paris.
Nous sommes le mardi 12 mai 2026, il est 19h. Bienvenue dans la matinale de 19h de Radio Campus Paris.
La matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ses albums et j'ai pété une pile.
Les sujets étudiants.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
C'est un sujet que les guerres, l'affaire Epstein et le hantavirus ont réussi à faire oublier. Mais le climat, inlassablement, se réchauffe. Et en Europe, plus vite que dans le reste du monde. C'est ce que rappelle le rapport Copernicus, publié le 29 avril dernier. En 2025, des vagues de chaleur, dont la deuxième plus intense jamais enregistrée en Europe, ont frappé le continent et ses mers. Des incendies dévastateurs ont ravagé les forêts européennes. L'Europe a enregistré des températures supérieures à la moyenne, sur 95% du continent. Et les conséquences de ce réchauffement, plus de deux fois supérieures à la moyenne mondiale, sont dévastatrices. Plus d'un million d'hectares de forêts brûlées, un débit d'eau inférieur à la moyenne dans 70% des cours d'eau et la calotte glaciaire du Groenland qui a perdu 139 gigatonnes de glace. Face à ces chiffres alarmants, une question se pose : où est passée l'écologie dans le débat politique français ? Parce qu'à un an de la présidentielle de 2027, le climat semble avoir disparu des priorités. C'est ce dont s'inquiètent plusieurs experts et agences internationales dans un nouvel avertissement relayé par l'Organisation des Nations Unies ce mardi 12 mai. En effet, on parle pouvoir d'achat, immigration, sécurité, dette, guerre commerciale, mais très peu de transition écologique. Comme si le sujet était devenu secondaire, comme si les canicules, les sécheresses ou les inondations appartenaient déjà au décor et que le politique ne pouvait plus rien y faire. Derrière ce manque de visibilité, une certitude, l'écologie est devenue politiquement risquée. Une partie de la population l'associe à des contraintes, des taxes, une restriction des libertés, et le souvenir des gilets jaunes hante encore les responsables politiques. Ensuite, il semblerait que s'installe une lassitude collective, les rapports s'enchaînent, les records de chaleur aussi, et pourtant rien ne semble vraiment changer, comme si l'accumulation des alertes produisait désormais de l'indifférence. Alors certes, on entend parfois parler d'écologie pragmatique, de croissance verte ou de souveraineté énergétique, mais derrière ces formules, il manque souvent l'essentiel, des chiffres. Que produire, où, comment, pourquoi, comment et où se déplacer, combien se chauffer, comment se nourrir. Autant de questions qu'il serait sans doute bon de réintroduire dans le débat durant l'intense période démocratique qui s'ouvre devant nous. Car pendant que les candidats peaufinent leur slogan pour 2027, le thermomètre, lui, continue de grimper. Et c'est un beau programme qui vous attend ce soir dans la matinale. Tout d'abord, nous commencerons par l'interview de Fanny Rébillard, commissaire de l'exposition Video Games and Music, qui se tient du 2 avril au 1er novembre au Musée de la Musique et de la Philharmonie de Paris. Puis ce sera le Flash Info et la chronique Actu de Vladimir. Et nous finirons cette matinale avec la chronique de Fabien. C'est un beau programme qui vous attend, alors restez avec nous dans la matinale de 19h sur le 93.9.
La matinale de 19h, 93.9 FM.
Et exceptionnellement, nous vous proposons de commencer cette matinale par une petite musique, Once I Was a Good Girl de Frequency.
Right now, catch a felony. Have you ever seen a pop star blowing smoke rings in the back of a black towel? I'm a G.
Ha 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 ha, so you want me now? 3:35 on my flight touchdown. I know you want me back, cause I'm here right now. In your city, but I'm on this. Oh.
Enemy, and you wonder why I ain't on the same energy, or you wonder why I changed like the weather. See, you need a cold now, cause it's cold when you step to me.
Say you want me back. No, I look good, but my life's on track.
If you didn't mess it up, you'd be on thin line till you come watch your mind flicker. You remember when you let me outside in the cold light winter, stand in the rain and my tears blending, and it helps with the pain. Took the ice from my tears and I put it in my chain and some Cartier frames.
C'était Once I Was a Good Girl de Frequency. Tout de suite, le Zoom.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Et aujourd'hui, dans le Zoom, nous accueillons Fanny Rébillard, musicologue, archiviste numérique et commissaire de l'exposition Video Games and Music qui se tient du 2 avril au 1er novembre au Musée de la musique de la Philharmonie de Paris. Bonsoir Fanny. Fanny, est-ce que vous nous entendez ?
Oui, très bien, là, ça y est.
Bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous sur Radio Campus Paris. Dans nos imaginaires, en tout cas dans le mien, je voyais la Philharmonie comme un lieu où on jouait de la musique classique, symphonique, de la grande musique. Est-ce que accueillir une exposition sur la musique des jeux vidéo à la Philharmonie, est-ce que c'est une façon de décloisonner les genres et d'accueillir peut-être un public nouveau à la Philharmonie ?
Oui, tout à fait. En fait, ça rejoint une volonté de la Philharmonie qui est affichée depuis assez longtemps maintenant, notamment parce que c'est une institution qui est située à Porte de Pantin. Et en fait, ça fait vraiment suite à d'autres expositions qui ont pu essayer de viser d'autres publics que la musique classique avec un C majuscule. On avait eu l'expo Metal, on a eu l'expo Disco, on a eu même l'expo David Bowie il y a quelques temps, ou des expos autour de la musique de film. Donc en fait, c'est un petit peu une volonté de diversifier, d'accueillir des nouveaux sujets, de poser des nouvelles questions en rapport avec la musique.
Alors la structure de l'exposition justement, elle est inspirée aussi de celle d'un jeu vidéo avec 5 biomes qui constituent une sorte de scénographie immersive conçue par La Sagna et Racine en collaboration avec l'artiste Mounir Ayash et des graphismes du duo E plus K. Comment s'est passée la collaboration entre tous ces esprits créatifs qui a conduit au choix des 5 environnements, des 5 biomes ?
En fait, ça a été assez progressif et on a vraiment été par impulsion successive parce que chacun remplit un rôle très particulier. On a d'abord eu une très longue phase de réflexion et de débat avec les équipes du musée, les équipes du service des expositions, où on a déjà décidé des thématiques qu'on voulait couvrir, des choses aussi variées que la guerre des consoles ou des questions plus techniques et technologiques, etc. Et une fois qu'on a eu une structure vraiment avec des îlots presque thématique qui était isolé, on a pu essayer de se projeter dans l'espace et on a d'abord commencé par discuter avec la Sagna et Racine qui ont fait des propositions on va dire d'adéquation culturelle. On a aussi travaillé de manière un peu plus précise avec E plus K pour les contenus un peu plus pédagogiques, aussi sur toute la signalétique de l'exposition, donc la manière dont on va guider les visiteurs et les visiteuses à travers les espaces, parce que comme c'est une expo ouverte, il faut pouvoir leur suggérer aussi que derrière des portes, il y a plusieurs chemins à suivre, ou qu'il y a des portes dérobées, etc. Et enfin, la collaboration au niveau de l'infographie, ça a été plutôt dans les dernières étapes de l'exposition, c'est-à-dire qu'on s'était mis d'accord avec eux pour, sur les thématiques, par exemple le fait qu'on voulait des jungles, des biomes qui représentent des environnements vidéoludiques qui fassent des références assez claires sur le plan culturel, on va dire. Et ça, c'est vraiment arrivé tout à la fin en habillage.
Oui, parce qu'en fait, votre exposition, c'est pas seulement des choses à regarder, c'est aussi une vingtaine de jeux jouables sur des consoles. Ça va être des photographies, des contenus audiovisuels qui vont retracer la chronologie et l'évolution de la musique des jeux vidéo. Et en fait, on se rend compte qu'on est passé en quelques années de simples bips à quelque chose de beaucoup plus travaillé, finalement. Comment cette évolution, à votre avis, elle a changé l'expérience du jeu vidéo ?
Elle a changé l'expérience tout d'abord en passant du muet au sonorisé et en amenant ce qu'on appelle un feedback direct, des choses qu'on a vu aussi en même temps dans l'informatique avec le principe des earcones qui sont un peu comme des icônes sonores, donc des sons qui correspondent à ce qu'on fait dans les menus. Ça a l'air tout bête, mais c'est un principe qui est fondamental pour comprendre et la sonorisation dans les applications encore aujourd'hui et le système de bruitage du jeu vidéo. Et puis avec l'évolution des consoles, avec aussi les nouvelles velléités plus scénaristiques des développeurs et développeuses. La musique, c'est vraiment devenu un support de la narration, un support de l'action. C'est devenu presque une bande-son filmique, mais qu'on écrit soi-même à mesure qu'on joue. Ça a été vraiment très important.
Et d'ailleurs, quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est que j'ai vu qu'autour de votre exposition, il y avait différentes manifestations artistiques qui sont organisées, et notamment des concerts, par exemple, autour de la musique du jeu Assassin's Creed. Moi-même, j'ai beaucoup, beaucoup joué à ce jeu, et je me rappelle que j'écoutais les musiques du jeu sur mon MP3 à l'époque. Est-ce que vous diriez que la musique du jeu vidéo est en train un petit peu de s'autonomiser, de devenir une sorte d'œuvre d'art à part entière, peut-être un élément de patrimoine, comme c'est le sujet de votre thèse ?
Oui, alors la musique de jeux vidéo, en fait, elle est devenue autonome dès les débuts du jeu vidéo, même à l'ère arcade, à la fin des années 70. On avait déjà des bandes originales qui étaient éditées. La musique de jeux vidéo, elle inspirait aussi des groupes comme le Yellow Magic Orchestra, qui était un groupe notamment auquel a participé Ryuichi Sakamoto, qui après s'est fait connaître pour des musiques de films. Donc en fait, très tôt, la musique de jeu, elle a intéressé pour les sons que produisaient les puces originales ou les bornes. Et puis ensuite, ça a été l'attachement émotionnel en fait, qu'on a construit avec ces musiques-là, qui est devenu un support pour que les gens aient envie d'écouter cette musique pour se souvenir de leur partie, au même titre qu'on écouterait la musique d'un film, d'un Star Wars, etc. Et puis plus récemment, mais au Japon, on avait déjà, dès la fin des années 80, les premiers concerts avec grand orchestre et pour grand public. On a de plus en plus cette volonté de montrer finalement qu'on est d'une part face à une musique qui est de qualité suffisante, entre guillemets, même si elle l'est depuis très longtemps, pour pouvoir être joué en concert, mais qui aussi rassemble des foules, rassemble des gens de plusieurs générations différentes, parfois autour d'une idée culturelle qui devient musicale, du coup.
Et vous parlez de musique qui rassemble des foules, et je pense que tout le monde, dans toutes les générations, connaissent par exemple la musique de Super Mario Bros. Et en fait, on se rend compte que la musique de jeux vidéo a aussi ses stars. Par exemple, c'est Koji Kondo qui a créé la musique de Mario Bros. Et de Zelda, ou Nobuo Uematsu qui va créer la musique de Final Fantasy. Est-ce que, quand on voit la déferlante des musiques générées aujourd'hui par intelligence artificielle, est-ce que vous pensez que c'est la fin de l'artisanat et de la créativité humaine dans la musique de jeux vidéo ? Et je dis ça d'autant plus qu'en fait, on se rend compte que ces auteurs de musique de jeux vidéo, ils sont finalement assez peu connus du grand public, et donc on ne se rendrait pas vraiment compte si c'était une intelligence artificielle qui avait généré ces musiques-là.
Alors, il y a plusieurs questions qui se posent. D'une part, les problématiques éthiques et puis écologiques autour de l'intelligence artificielle et surtout la manière dont fonctionnent ces intelligences. Ce que j'aime dire, c'est qu'en fait, l'IA, alors pas au sens où on l'entend aujourd'hui, elle a quand même été utilisée dès les débuts du jeu vidéo pour faire des propositions artistiques ou pour explorer des nouvelles esthétiques, mais elle était perçue vraiment comme un support qui était alimenté par les compositeurs et qui était ensuite sélectionné par les compositeurs. On parle par exemple du travail de Peter Langston, qui a écrit un des premiers algorithmes de génération musicale à destination d'un jeu notamment, donc ça faisait de la musique qui s'écrivait en temps réel, mais évidemment c'est lui qui avait rentré toutes les données qui étaient traitées par l'algorithme à cette époque-là, donc on avait vraiment un style très distinct qui ressortait. De la même manière, dans les années 90, Yuzo Koshiro, le compositeur de Streets of Rage, avait programmé un petit logiciel qui lui générait des sonorités particulières ou des morceaux de mélodie que lui ensuite sélectionnait en fonction de ce qu'il aimait ou pas, et puis qui réarrangeait selon ses propres goûts et ses orientations. la musique générée entièrement par ordinateur et qui s'alimente, qui s'auto-alimente. On est un petit peu dans un Ouroboros aujourd'hui, qui finalement a une structure un peu en boîte noire, c'est-à-dire qu'on ne sait pas d'où viennent les informations, on ne sait pas d'où sortent les données, qu'est-ce qui les inspire. Et de ce que j'ai pu écouter, en tout cas des intelligences artificielles qui essayent de notamment se faire passer pour des compositeurs sur Spotify ou les plateformes de streaming pour générer de l'écoute et faire de l'argent rapide. Le travail est encore très très loin d'égaler le style de ces compositeurs. Ils ne sont pas du tout reconnaissables. Et puis surtout, on est dans une musique qui n'est pas du tout structurée, qui n'a pas d'intérêt autre que de reproduire et de plagier des choses qui sont déjà très répandues en musique populaire, comme des suites d'accords qu'on retrouve souvent. Et donc ça fait quelque chose de très étriqué, de plus en plus étriqué, qui à mon avis va pas forcément avoir beaucoup d'avenir, en tout cas si on cherche des choses un peu plus créatives. Ça peut toujours rester un support, mais ça sera jamais un bon support si on n'a pas du côté humain un accompagnement et un usage un peu plus raisonné.
Et peut-être sans tout dévoiler de l'exposition, mais à votre avis, quelle est la chose qui va surprendre le plus les visiteurs qui viendront la voir ?
C'est une bonne question. Qu'est-ce qui pourrait surprendre ? Je dirais que le volcan techno va peut-être un petit peu surprendre, parce que on prend une approche plutôt axée sur les genres de la musique de jeux vidéo, à savoir quels lieux peuvent se rassembler autour d'un genre musical. Sinon, une des choses que je peux recommander sans trop spoiler ou divulgâcher, c'est de bien réviser l'économie code et les raccourcis clavier en visitant l'exposition, parce qu'on a glissé quelques surprises dans certains jeux.
Et peut-être pour finir, une question un peu plus personnelle, quelle est la chose dont vous êtes la plus fière dans cette exposition et le travail qu'elle a nécessité ?
Il y a beaucoup de choses qui m'ont beaucoup émue, mais je pense qu'une des salles qui a fait l'effet le plus fort, en tout cas pour les équipes du musée, pour moi, etc., c'est la salle Électroplancton, qui est une salle autour du travail du créateur japonais Toshio Iwai, qui est un artiste contemporain, mais aussi un créateur de jeux. Il se trouve qu'il a créé des instruments et des expérimentations musicales ludiques. Et on a essayé de faire une salle qui incite les gens à créer. Et c'est une salle aussi à laquelle ont contribué d'autres musiciens qui ont été influencés par le travail de Toshio Iwai. Je pense notamment à l'artiste 2080, qui est très connu notamment pour sa chanson My Mega Drive, et qui nous a même composé un morceau sur le Tenorion, qui est l'instrument créé par Toshio Iwai. Et il y a eu un moment vraiment très émouvant quand on a allumé la salle, où on a testé les applicatifs, on a testé pour voir s'il était possible de vraiment composer avec une Nintendo DS à plusieurs autour d'une table, et ça a très bien marché. Et il y a eu un peu ce moment où on a eu d'un côté de l'art, de l'autre de la musique, de l'autre du jeu, et tout le monde s'est dit c'est génial. Je pense que c'est un des plus beaux moments.
Merci beaucoup Fanny Rébillard d'avoir été avec nous sur Radio Campus Paris. Et on rappelle que l'exposition dont vous êtes la commissaire Video Games and Music se tient du 2 avril au 1er novembre au Musée de la Musique de la Philharmonie de Paris. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Et pour vous auditeurs, un petit plaisir musical, That Girl de Borderline. I'm not alone. How I feel, what you're being on. C'était That Girl de Borderline.
La matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris.
Et tout de suite, c'est le Flash Info de Vladimir.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
Bonsoir Maxime, bonsoir à toutes et à tous. En France, à l'actualité ce soir, Boris Vallaud a démissionné de la direction du Parti Socialiste. Le député des Landes a annoncé ce 8 mai qu'il quittait son poste avec l'ensemble de son mouvement. Il est en désaccord avec Olivier Faure, le premier secrétaire du parti, sur le mode de désignation du candidat socialiste à l'élection présidentielle de 2027. Alors qu'Olivier Faure souhaite participer à la primaire de la gauche hors LFI, qui rassemble les écologistes, le Parti Communiste et François Ruffin, Boris Vallaud souhaite quant à lui un rapport avec le centriste Raphaël Glucksmann. Son départ fracassant met du plomb dans l'aile à la primaire de la gauche hors mélenchoniste prévue pour 7 octobre. En France toujours, au moins 3 personnes sont décédées et des dizaines d'autres blessées dans un incendie qui a touché un quartier populaire à Décines-Charpieux en banlieue de Lyon ce lundi matin. La préfecture a déclaré l'ouverture d'une enquête pour homicide volontaire. Cet incendie éclate sur fond de tensions grandissantes entre les groupes de narcotrafiquants. Depuis plusieurs semaines, des menaces se sont intensifiées avec notamment des tirs sur les façades d'immeubles. L'après-midi du drame, une quinzaine d'habitants du quartier se sont réunis devant la mairie pour réclamer des vrais moyens de protection, se disant abandonnés par les pouvoirs publics. À l'international, en Grande-Bretagne, la pression s'accentue sur Keir Starmer, lâché par plusieurs de ses ministres ce lundi soir. Le Premier ministre britannique est dans la tourmente politique à la suite d'une défaite électorale cuisante de son parti, The Labour, jeudi dernier. Selon le quotidien britannique The Guardian, plusieurs de ses ministres ont enjoint Starmer à fixer un calendrier pour son départ. Dans un discours prononcé lundi soir, il a pourtant tenté de rallier ses troupes en déclarant vouloir replacer la Grande-Bretagne au cœur de l'Europe et en accusant le Brexit, sans pour autant convaincre son temps. De nombreux députés frondeurs du parti ne cessent d'augmenter et les prochains jours seront pour lui décisifs. Les règles d'isolement pour les victimes contaminées par l'antivirus se durcissent en France et dans le monde. 22 Français ont été identifiés comme cas contact. Ils doivent se signaler aux autorités sanitaires et observer des mesures de quarantaine en attendant une évaluation de leur risque de contagion. Ce virus, transmis par des rongeurs infecté, a contaminé plusieurs personnes à bord d'une croisière en Argentine, provoquant plusieurs décès. Le consensus scientifique reste cependant rassurant. Selon l'immunologue Jean-Daniel Lelièvre, l'antivirus est bien moins transmissible que le Covid-19 et d'après lui, la réaction prudente des gouvernements ressemblerait davantage à une répétition générale afin de tester la réactivité des systèmes de santé face à une future pandémie. Et enfin et pour finir, culture. Ce soir a lieu la cérémonie d'ouverture de la 79e édition du Festival de Cannes qui se déroulera jusqu'au 23 mai. Le réalisateur coréen Park Chan-wook, président du jury, a annoncé vouloir récompenser des œuvres qui marqueront le 7e art durablement. Cette édition est également politique. Elle se déroule sur le fond d'une inquiétude de l'influence grandissante de Vincent Bolloré sur le monde du cinéma. 600 professionnels du 7e art ont signé une tribune aujourd'hui pour dénoncer l'emprise du milliardaire, propriétaire du groupe Canal, qui a récemment racheté une part du distributeur UGC. Les signataires s'inquiètent qu'il ne pousse à la production d'un cinéma de propagande au service d'une idéologie réactionnaire.
Et merci beaucoup Vladimir pour ce Flash Info. Tu restes avec nous pour la chronique Actu.
La matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris.
Et Vladimir, tu es toujours avec nous pour ta chronique Actu.
Et oui, c'est toujours moi. Souvenez-vous, en juin 2025, le Madeleine, un petit voilier avec 12 personnes à son bord, tentait de briser le blocus imposé à la bande de Gaza par l'État israélien. Un an après, un mouvement international a constitué une flotte de dizaines de bateaux et tente à son tour de forcer le blocus. Partie mi-avril, la flotte rassemble des centaines de participants et activistes du monde entier, provenant de différentes organisations qui se sont montées. Elles sont la Global Samud Flotilla, Thousand Madeleines et la Freedom Flotilla Coalition. Et au sein de cette initiative, s'est monté un projet singulier, la création d'une radio pirate qui s'intitule Wave Zero. Elle émet tous les jours depuis les bateaux de la flottille, entre eux et vers la Terre. J'ai pris contact avec Robin, un Français à bord de la flottille qui est actuellement au port de Marmaris en Turquie et qui a monté cette initiative et qui nous raconte son principe.
Wave Zero, c'est avant tout une web radio qui diffuse sur wavezero.world avec une programmation éclectique qui vient de contributions venant du monde entier et d'un live quotidien tous les jours venant de la flottille. Moi, c'était ma mission principale, de faciliter ce live quotidien et d'émettre sur les bateaux en invitant les gens à contribuer, que ce soit de la musique sous forme de résistance, leurs poèmes, leurs contributions, d'interviewer ou de donner la parole aux gens pour qu'ils puissent parler de leur forme de mobilisation et de leur participation, de leur vision sur la flottille.
Wave Zero a donc pour projet de donner à entendre la vie des personnes à bord de la flottille, ce qu'ils pensent, ce qu'ils partagent et ce qu'ils créent ensemble. C'est un moyen pour les gens à terre de suivre aussi le récit quotidien de ces militants venant du monde entier. Mais Wave Zero est aussi une plateforme pour que les gens à terre contribuent à leur manière à accompagner l'initiative.
Et le reste des contributions et le reste des émissions, des lives, viennent de partout dans le monde, miroitant toutes les facettes de mobilisation qui existent en soutien à la Palestine, en soutien particulièrement à Gaza, et les mouvements anticoloniaux, antigénocidaires, antifascistes et antisionistes. Et donc nous avons fait un grand appel à contribution qui a eu des répercussions à travers le monde, et nous avons pu avoir des lives, des émissions qui viennent un peu partout pour montrer une variété assez intéressante de mobilisation en soutien à la Palestine.
Une mobilisation qui se heurte aujourd'hui à de nombreux défis. Le 30 avril, dans les eaux internationales au large de la Crète, 22 navires de la flottille ont été interceptés par l'armée israélienne et 179 militants ont été arrêtés. Cette interruption précoce et particulièrement violente a poussé les organisateurs à se rassembler dans le port de Marmaris, une ville au sud-ouest de la Turquie. Ils organisent aujourd'hui même une grande assemblée générale où se confrontent les points de vue sur la suite à donner au mouvement. Robin me raconte qu'il existe des désaccords stratégiques entre les différentes organisations. Les uns souhaitent poursuivre leur route coûte que coûte vers Gaza en espérant braquer les projecteurs du monde sur leur mobilisation et leur combat. Et d'autres redoutent un essoufflement de la médiatisation des flottilles et proposent d'opter pour des formes de mobilisation plus efficaces pour faire pression sur l'État israélien, en coopérant par exemple avec des actions des dockers qui bloquent l'envoi de matériel à Israël en provenance de l'Union européenne. Une chose est sûre, la radio pirate Wave Zero est le témoin précieux de cette mobilisation agile qui se cherche encore mais qui reste toujours en mouvement, et elle nous permet, pour nous autres qui restons à terre, de ne pas trop nous éloigner de celles et ceux qui se battent sur les flots.
Merci beaucoup Vladimir pour cette chronique actu. Tout de suite, on écoute Carrie Bradshaw de Kylie Cantrell.
It has me thinking. Do you have to outgrow your past to fit into your future?
I'll keep the dress I'll never put on my body ever again. But I'll grow away my boyfriends. Real life, fake friends. I don't make no secret that I'm a mess in the city with a heart made of on the hand I've been given. I hold on tight
C'était Kerry Brightshow de Kylie Cantrell.
La matinale de 19h.
Et tout de suite, nous accueillons non pas une, mais deux personnes, Fabien et Lola, dans ce studio, pour leur chronique libre. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour. Et donc, on va vous parler des légendes de Paris aujourd'hui. Et donc, c'est moi qui commence, c'est ça?
C'est ça.
Alors, je vais commencer par vous parler de l'homme rouge des Tuileries. C'est l'histoire du palais, aujourd'hui disparu, et du jardin des Tuileries qui est liée à une célèbre légende parisienne, celle de l'homme rouge des Tuileries qui aurait hanté les lieux pendant plus de 300 ans. En 1564, la reine Catherine de Médicis se lance dans un projet pharaonique, transformer les fabriques de tuiles du bord de Seine en demeure royale. Mais un habitant du quartier, le boucher, Jean l'écorcheur, refuse de quitter son abattoir qui doit être détruit pour laisser la place au nouveau palais. La reine demande donc alors à son homme de main, le chevalier Neuville, de s'en débarrasser. Mais au moment de mourir, Jean l'écorcheur promet à Neuville qu'il reviendra d'entre les morts pour les hanter. Et il ne tarde pas à tenir sa promesse. Couvert de sang, le fantôme rôde et prédit même que la reine mourra près de Saint-Germain. Étant trop proche de Saint-Germain-des-Prés, de Saint-Germain-l'Auxerrois et de Saint-Germain-en-Laye, elle déménage carrément à Blois. Mais le fantôme continue de terrifier les occupants du palais. Ainsi, en juillet 1792, il apparaît à la reine Marie-Antoinette, peu de temps avant la chute de la monarchie, en 1815 à Napoléon Ier, quelques semaines avant la bataille de Waterloo, en 1824 à Louis XVIII et à son frère le comte d'Artois, quelques jours avant sa mort, avant la mort du premier donc. On l'aurait également vu pour la dernière fois le 23 mai 1871, pendant l'incendie des Tuileries, où il disparut à jamais dans les flammes. À moins que vous l'ayez vous-même aperçu.
Merci beaucoup. Lola, ta légende?
Alors moi, je vais vous parler d'une autre jolie légende, celle du ferronnier Biscorné. Il était chargé de la conception arabesque des portes latérales de Notre-Dame de Paris au XIIIe siècle. Jeune, ambitieux, mais dépassé par l'ampleur de la tâche, on raconte qu'il accepta de livrer son âme au diable pour y parvenir. Celui-ci lui aurait alors dit « Je suis le diable. Si tu veux faire un pacte avec moi, tu seras le plus adroit des serruriers et tu pourras entreprendre tous les ouvrages que tu voudras. » Après des jours de travail infructueux, Biscorné fut retrouvé endormi devant son ouvrage achevé, d'une remarquable finesse. Hélas, le jour de l'inauguration, les fameuses portes refusèrent de s'ouvrir. On y parvint à grand renfort d'eau bénite et Biscorné fut délivré de son serment. Les portes centrales ne possédaient à l'origine aucun ornement. Même Victor Hugo s'en étonnait. Il faudra attendre le travail de Viollet-le-Duc au XIXe siècle pour que le ferronnier boulanger les y ajoute après avoir restauré celle de Biscorné.
Une nouvelle légende?
Une nouvelle, oui. Alors moi, l'inconnu de la Seine. Alors là, c'est entre un fait divers et une légende populaire. C'est Paris dans les années 1880. Un jour, la morgue du guet de l'archevêché accueille le cadavre d'une jeune fille qui a été repêchée dans la Seine. Sympa, ça commence bien. La malheureuse, qui est à peine âgée de 16 ans, n'a aucune trace de coups ou de violence. Les médecins y concluent donc au suicide. Pourtant, quelque chose interpelle les employés de la morgue. Dans son repos éternel, la noyée affiche un rictus énigmatique. Que peut bien traduire ce sourire? Que peut-elle bien cacher? N'ayant aucun moyen de connaître son identité, son corps est exhibé, comme les autres cadavres anonymes, derrière de grandes vitres pour permettre de les identifier. C'était très sympa à l'époque. À l'époque, la morgue n'était pas fuie. Bien au contraire, véritable attraction populaire, le tout Paris s'y rue, parfois même en famille, pour commenter ou observer les malheureux. La morgue est un spectacle à la portée de toutes les bourses que se payent gratuitement les passants pauvres ou riches. La porte est ouverte, entre qui veut, écrit d'ailleurs Émile Zola dans son roman Thérèse Raquin. Malgré les foules qui s'y pressent, personne ne parvient à reconnaître celle que l'on appellera très vite l'inconnue de la Seine ou encore la Mona Lisa de la Seine. Comme envoûté par le sourire de la belle noyée, un assistant légiste aurait demandé un moulage pour conserver à tout jamais le souvenir de ce visage. Cette pratique était monnaie courante à l'époque, mais elle est réalisée essentiellement sur des personnes illustres ou des artistes pour la postérité.
C'est un petit peu glauque.
Ah, c'est la plus glauque des quatre, celle-là.
Lola, une dernière ?
Une dernière toujours aussi glauque. Alors, je vais vous parler du barbier et du pâtissier cannibale de l'île de la Cité. Faits divers ou légendes ? La légende raconte qu'en 1384, derrière la cathédrale Notre-Dame, un pâtissier et un barbier de la rue des Marmoussés s'étaient associés pour un trafic aussi rentable que macabre. Leur funeste entente reposait sur une froide répartition des tâches. Le barbier, lui, il devait égorger les proies, souvent de pauvres étudiants et étudiantes, tandis que son voisin, le pâtissier, se chargeait de les cuisiner. En effet, une fois les corps dépecés, le barbier les envoyait par une trappe chez son voisin pâtissier qui fabriquait ces fameux petits pâtés à base de chair humaine fraîche. Ils étaient très appréciés du tout Paris. Le roi Charles VI lui-même en aurait été amateur. Les deux compères furent démasqués en 1387 lorsqu'attention, le chien de l'une des victimes alerta le voisinage et la maréchaussée par ses hurlements continus devant la boutique du pâtissier sanguinaire. Dans la cave, des preuves accablantes furent découvertes, dont le fameux billot servant à étriper les corps. Le barbier et le pâtissier finirent brûlés vifs dans une cage en fer. Leurs échoppes, véritables petits théâtres d'horreur à l'odeur pestilentielle, furent totalement rasés. Aujourd'hui, à l'emplacement des maisons, on trouve le garage des policiers motocyclistes de l'île de la Cité. Il ne reste qu'un seul supposé vestige, une pierre au fond du garage, un ancien tombeau qui pourrait être le billot en question. 7 siècles se sont écoulés depuis cette histoire, qui est encore controversée aujourd'hui. Est-ce une réalité ou une légende ? Nous ne le saurons peut-être jamais.
Et je ne suis pas sûr que ce n'était pas la plus glauque, celle-là, finalement. Ouais. Merci beaucoup à tous les deux, en tout cas, pour ces légendes de la ville de Paris. C'est déjà la fin de cette matinale. Merci beaucoup à notre invitée, Fanny Rébillard, dont l'exposition Video Games and Music se tient du 2 avril au 1er novembre au Musée de la Musique de la Philharmonie de Paris. Merci à Vladimir pour le Flash Info et la chronique. Et merci à Fabien et Lola pour ces glauques légendes de la ville de Paris. Merci à Léna pour la réalisation. Merci à vous, chers auditeurs. La matinale de 19h revient demain à 19h. Très bonne soirée à vous sur le 93.9.